L'alternative.
Hold up, this is not my thing. This music is tired. I'm sorry, he's gonna have to play something else. Let me go talk to the DJ.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Alors, je crois que ce soir, on va faire un peu le bilan de ce premier tour d'élection. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par dire un peu ceux qui ne se sont pas déplacés.
Ben oui, on a normalement... alors oui, c'est déjà commencé. Moi, j'étais pas dedans, tu vois. Mais on a une élection qui est normalement l'élection du cœur de la Ve République, du système politique.
Ce qui pose un problème.
Tout à fait.
Hein, parce que bon, t'es dans un régime présidentiel où c'est l'élection centrale. Tu élis un bonhomme ou une bonne femme. Pour l'instant, ce n'est que des bonhommes. Et le reste, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, par là. Et en plus, ils ont réussi à mettre les législatives après pour éviter toute cohabitation. Parce qu'effectivement, les gens étant dans le mouvement de l'élection présidentielle, ils ne désavouent pas le président qui est élu. Et c'est ainsi qu'on n'aura plus de cohabitation, voilà, tant que la République n'aura pas changé.
Oui, c'est peu probable, effectivement, à moins qu'il se passe quelque chose au mois de mai. Mais bon, ça, on n'est pas là pour lire dans le marc de café, on verra bien. Donc, tu le disais, oui, c'est vraiment le cœur du système politique républicain français. Et effectivement, on a à peu près un tiers... Hein, des gens qui sont inscrits hein, sur les listes électorales, qui ne se sont pas déplacés. Donc, pour tout un tas de raisons, hein, ça soit déjà la possibilité de se déplacer, la connaissance de où on va voter, etc. Il faut voir quand même que cette campagne s'est tenue dans des circonstances extrêmement particulières. Hein, auparavant, le Covid, puis ensuite la guerre en Ukraine, ce qui a permis tout un tas de tripatouillages et on va dire une absence de confrontation d'idées et même de débat dans la société. À moins de 15 jours du scrutin, on n'avait pas l'impression d'être dans une séquence présidentielle. Et puis, effectivement, par rapport au biais qu'on a pour s'informer, alors d'un côté, on a les médias dits mainstream, qui ont effectivement, comme c'était à prévoir, fait une déclaration d'amour d'une part à Macron, d'autre part à leur star favori qui sont le Rassemblement National et puis Zemmour, hein, cette baudruche médiatique qui s'est, comme on l'a vu, particulièrement bien dégonflé. Et puis de l'autre côté, on a Internet avec évidemment la difficulté d'avoir des informations fiables, recoupées, vérifiées, d'avoir un espèce de flux d'informations en permanence qui nous noie et qui empêche la véritable réflexion politique, puisque pour nous, en tous les cas, la politique, c'est dans le quotidien, c'est incarné dans des actes, dans des individus, dans la confrontation d'idées, dans la confrontation physique, orale d'idées. Quand je parle physique, c'est pas se foutre sur la gueule, hein, mais c'est d'avoir des gens en face de soi qui sont capables d'assumer et d'incarner, d'être des relais dans la société, c'est-à-dire de pouvoir assumer les politiques qu'ils défendent, le choix de la gestion de la société. Or, vraiment, c'est de plus en plus le cas. Il y a une disparition de ces modes traditionnels de la politique. Et puis, on a eu aussi cette espèce de dictature sondagière qui, en fait, dessinait un espèce de champ, de figure, de représentation, d'image de ce qui devait être et qui, au lieu d'être un outil pour pouvoir, on va dire, comprendre ce qui se passe, se retrouve en fait à être un instrument dans la transformation d'un rendez-vous qui est un rendez-vous hyper important, puisque on n'est pas en train de dire que c'est les élections qui changent la vie ou que c'est les élections qui font la société, puisque c'est les luttes et c'est l'implication de chacun et de chacune dans la société qui fait cette société. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que les responsabilités et les actes et les décisions qui seront prises par les dirigeants, elles vont avoir des conséquences sur la vie de tout un chacun. Et donc, ces sondages, ils ont transformé un moment où, qui pouvait être un moment de politisation de la société en une espèce de course de petits chevaux. Hein, bien sûr,
c'est toujours comme ça.
Ça et on avance. Alors, il y en a un qui arrive là, il y en a un qui arrive là, etc.
C'est toujours été comme ça, si ce n'est que maintenant, ça a beaucoup pris d'ampleur, avec effectivement plusieurs sondages par jour. C'est incroyable. Mais c'était déjà ça en 2017. Hein. C'est vraiment un truc qui est en constante augmentation. Il y a là-dessous des questions de fric, puisqu'il y a des gens qui payent pour faire ces sondages-là. Ensuite, les gens vont dire est-ce que c'est fiable ou pas. On ne saura jamais, puisque de toute façon, un sondage à l'instant T n'est pas valable forcément à l'instant T plus 1. Un étant un jour, c'est évident. Dire bon, tu peux faire un sondage. Moi, par exemple, autour de moi, par exemple, même moi, si je n'ai pas été voté, je le dis, il y a quelqu'un qui a été voté, qui est proche de moi et qui a changé son vote 24 heures avant, peut-être même pas 24 heures avant, hein, puisque elle était partie au départ pour voter extrême gauche, hein, NPA exactement, et puis au dernier moment, elle a voté utile, c'est-à-dire elle a voté Mélenchon. Bon, c'est ce qui fait que effectivement, au niveau des sondages, si les sondages sont bien faits, ils sont tout à fait,
utiles.
Utiles. Enfin, c'est pas que c'est utile. Ils sont. Certains disent, ouais, mais c'est pas en interrogeant 1000 personnes ou 960 personnes qu'on arrive à voir ce qui se passe. C'est faux. Au niveau statistique, prenez c'est des trucs de l'INSEE. Qui fait ça et d'une manière très très bien, suivant les âges, le genre, suivant les conditions sociales, etc. tout y passe et ils en sortent effectivement 1000 personnes, un panel de 1000 personnes qui est tout à fait représentatif. Alors après, ce qu'il change peut-être, c'est le fait que dans ces sondages, eh bien, on ne sait pas. Et moi qui a enseigné les sondages, puisque j'étais prof de maths en enseignement supérieur au niveau BTS, j'enseignais ça à la fin. Et ce qui n'est pas dit, moi, ça l'est de plus en plus, un peu quand même maintenant, c'est les erreurs de la marge. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand il y a un sondage, il n'y a pas 10,5% pour machin, il y a des intervalles. C'est-à-dire des intervalles du style 8-12. 8%, 12%. Il n'y a pas, la valeur centrale peut-être 10, et peut-être 10,5. Mais on n'en sait rien. C'est-à-dire que, normalement, les sondages, on devrait donner les résultats des sondages comme ça, sous forme d'intervalle. Et on s'apercevrait que ça change beaucoup de choses.
Mais de toute façon, ça part d'un principe que les individus qui sont sondés sont des agents rationnels, qui se déterminent et qui font un choix. Mais tu l'as dit, on peut changer d'avis sur le chemin, on peut avoir une connerie qui arrive dans la semaine et qui transforme son opinion ou son envie. Et, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a une influence terrible, parce que ça donne des dynamiques et ça donne des impressions. C'est-à-dire que quand on a dit que quelqu'un et que le deuxième tour serait Macron-Le Pen, et qu'on l'a répété pendant 3 ou 4 mois, ça commençait à vraiment être inscrit à l'intérieur des têtes et des comportements, et que donc il n'y avait pas forcément d'autres espoirs, quoi. Bon, voilà, ça c'est quand même un point qu'il va falloir, qui mériterait d'être fortement interrogé. Alors, l'abstention, évidemment, elle a concerné toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire les gens qui ont le plus intérêt à ce que les choses changent, c'est-à-dire les jeunes et les classes laborieuses, puisque une fois de plus, on s'aperçoit que c'est eux qui se déplacent le moins, alors soit par méconnaissance, soit par manque d'outils réels, ne serait-ce que se déplacer, soit parce que aussi, notamment pour les jeunes, souvent on est mal inscrit, c'est-à-dire qu'on a déménagé mais qu'on n'a pas changé de sa liste électorale, on est toujours inscrit sur l'adresse de ses parents, etc., etc. On ne sait pas, on n'a pas les instruments et les outils. Enfin, toujours est-il que voilà, on se retrouve avec quasiment la moitié des 18-35 ans qui ne sont pas allés voter.
Non, je crois que... Bah, j'ai écouté tout à l'heure...
44.
40% de 18 à 35 ans qui n'ont pas été votés. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de savoir pourquoi. Alors, est-ce qu'il se trompe ou pas? Est-ce qu'il a fait, un sondage? Et au niveau de ces jeunes, pourquoi ils n'allaient pas voter? Et au super, il y a des résultats qui sont réjouissants. Il y a beaucoup de jeunes qui ont répondu en disant « Ben moi, je fais de la politique autrement. Je m'excuse, je suis sur les réseaux sociaux. » Alors on peut critiquer les réseaux sociaux. « Je suis sur les réseaux sociaux. Je fais partie d'associations, etc. » C'est comme ça que je m'implique dans la société, que je fais de la politique. Donc ça, c'est réjouissant quelque part, hein, parce que je pense que je suis sur les mêmes longueurs d'onde que
tout à
même
fait.
Si je suis pas jeune.
Et ouais, et effectivement, d'un autre côté, les classes laborieuses, hein, c'est-à-dire les gens qui bossent et qui dont l'horizon en fait est limité à simplement comment ça va se dérouler pour le mois, quoi, et que les choses qui préoccupent ou qui sont du débat leur apparaissent bien lointaines, hein, même si malheureusement, si on ne s'occupe pas de politique, la politique
s'occupe
de toi, ouais, ça c'est clair. Et alors bon, du coup, ça a des implications directes et concrètes, puisque ceux qui vont être les plus mobilisés par ce débat et par l'envie de s'en mêler, c'est des gens qui ont intérêt et qui ont le temps, quoi. Et quand on regarde un peu la sociologie des électorats, elle est vraiment super, super, super claire. Et alors là, pour le coup, peut-être qu'on aura des sociologues qui s'y mettront et qu'on va avoir le temps, quand on va prendre du recul, de regarder ça. Mais là, sur les premiers résultats qu'on a, c'est quand même vraiment remarquable. Soyons clairs, hein, le vote Macron est un vote de bourgeois et de vieux.
Et de cadre aussi.
Ouais, de bourge.
Bah, tu sais pas forcément. Oui.
Ça dépend où tu mets la.
Pour moi, la bourgeoisie, c'est ceux qui détiennent le pouvoir économique quelque part, hein, en ayant une entreprise, etc., ou des actions. Mais bon, il y a aussi des cadres qui n'ont pas forcément d'action.
Et bon, qui votent pas on va dire qu'ils sont complices objectifs, voilà, de la bourgeoisie. Et puis des vieux. C'est-à-dire qu'on a
aperçu avec 60% des vieux.
Ouais, 60% des plus de 70 ans ont voté pour Macron. C'est quand même un truc effroyable. Ça ricane de l'autre côté. Ben oui, il va falloir payer leur retraite. Hein. Je crois qu'on va leur dire maintenant, vu que tu vas nous faire bosser 7 ans de plus, tu vas pas t'asseoir dans le bus, hein, tu vas rester une demi-heure debout en plus. Ça, c'est clair. La sanction, elle va être. Non, mais c'est assez effroyable de voir quand même une génération, une masse de gens qui.
Alors, ça a toujours été. Hein, je me rappelle d'il y a 40, 50 ans où on s'intéressait effectivement aux vieux pour qui ils votaient. Ils votaient à cette époque-là à droite. Ils votaient à droite. Maintenant, Pécresse, non, elle a fait 12% parmi les plus de 70 ans. Donc c'est effectivement lamentable. Là, ils votent Macron maintenant. Bon,
alors, de là à dire que Macron est de droite, bon, c'est en tous les cas, oui, il est de droite. Mais économiquement, il renforce et il défend les gens qui ont de la propriété, du patrimoine et de l'argent. Et qui veulent le conserver. Et tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu commences d'ailleurs à creuser un peu sur ces différences d'âge et de patrimoine, tu t'aperçois que c'est une étude qui est sortie aujourd'hui dans Le Monde qui est très intéressante, qu'aujourd'hui, environ 50% de la propriété immobilière est détenue par 5% de la population. Et que parmi ces 5%, la majorité d'entre elles, à 70%, sont des gens qui ont entre plus de 60 ans, voire 70 ans. Ouais. Donc on a vraiment là une identification claire d'un intérêt de classe immédiat, financier, mesuré, compté, calculé à la calculette, avec une étiquette politique et avec un candidat où il y a un partenariat, je te donne le pouvoir, tu me donnes de l'argent ou tu me fais des réductions d'impôts, etc., etc. Alors, on passe aussi sur les secteurs géographiques, hein, évidemment, l'Est parisien, caractéristique Neuilly. Neuilly vote à 4% pour Mélenchon, à 67% pour Macron. Hein, bon, là, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Également, dans les villes du Nord, telles que Mont-Saint-Barœul, Croix, enfin, des secteurs où on s'est très bien identifié les couches sociales qui sont représentées, quoi. Et puis de l'autre côté, des secteurs géographiques et sociaux qui ont massivement voté pour la gauche ou pour Mélenchon, que ce soit les Outre-mer, hein, la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, mais aussi des secteurs du Nord, Roubaix, la Seine-Saint-Denis, l'Ariège. Les Hautes-Pyrénées, non, mais les Pyrénées-Atlantiques, qui sont des régions pauvres, en tous les cas, des régions où la misère est assez importante et où l'existence au quotidien est difficile. Donc là-dessus, on a quand même des choses qui sont assez identifiées et identifiables. Macron est le candidat des bourgeois, on ne voudra rien d'étonnant hein, là-dessus, quoi. Et là, la bourgeoisie est triomphante une fois de plus. Et puis, ça nous amène. Alors, il y avait quelques uluberlus, hein. Qui étaient là, qui ont ramassé un peu de suffrages. Côté extrême droite, on avait Zemmour, on l'a dit. Ça a été une des attractions de la campagne qui s'est largement dégonflée. Alors là, la sociologie, on n'en parle même pas. C'est vraiment le maximum de ce qu'on peut faire en termes de bourgeoisie. Hein. Ça avait été révélé par Mediapart qui avait pu dénicher le fichier des 1000 premiers adhérents au mouvement Reconquête. Ouais. Donc c'est de la haute école, c'est de la finance, etc. etc. Là-dessus, il n'y a rien à voir. Et puis, de l'autre, eh ben, un vivier, on va dire... c'est assez difficile encore à décrire, mais 2-3% de Roussel ont mobilisé les derniers stalles séniles qui restent.
Ah, et qui en voulaient Mélenchon, parce que Mélenchon a été antidémocratique, comme ils disent, par rapport à eux, mais ça, c'est une histoire de politique aérie.
C'est ça. Et puis, bon, Roussel a été bien aidé, évidemment, par le système médiatico-politique, puisque pour le coup, pour une fois, il servait à quelque chose. Et puis, une espèce de zone de bobos assez difficile à cerner dans ses motivations, mais qui s'est donc porté sur Jadot. Alors nous, il n'est pas question ici de défendre une union de la gauche chimérique qui
c'est fini.
N'a jamais rien qu'a correspondu difficilement à quelque chose de réel dans le champ social. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a des gens qui n'ont pas de propositions, peu de propositions au niveau des programmes. Bon, ben, Roussel, c'était quoi ? C'était la viande, hein, le pinard.
T'exagères, il y avait aussi le nucléaire.
Donc vraiment de prendre les derniers cocos pour des beaufs, quoi. On a vraiment là renoué avec les traditions les plus profondes du PCF. Hein, qui défend véritablement son F, pas trop son C. Mais bon, voilà. Et puis, de l'autre, on n'a pas très bien compris aussi ce que voulait Jadot. Alors, on voulait dire que Poutine était méchant, ça on avait compris, qu'il fallait aider les Ukrainiens, c'était sûr. Mais en termes de propositions réelles pour pouvoir affronter le dérèglement climatique et puis de ce que ça voulait dire pour nous dans nos vies quotidiennes, l'écologie au pouvoir, ben on sait toujours pas ce que ça veut dire.
Mais si, quand même, parce qu'il a quand même fait des erreurs de classe, ce garçon, absolument incroyable. C'est-à-dire que le pouvoir décide, avec l'augmentation de l'essence qui était importante, d'essayer de limiter la casse en donnant 15 centimes de réduction par litre. Et on demande à Jadot qu'est-ce qu'il en pense. Et écoutez bien, il dit mais c'est pas normal. C'est pas normal de faire ce type de cadeau. C'est-à-dire que, alors, ce type de réponse de Jadot, sur des bases écolo, évidemment, le casse socialement. C'est-à-dire que c'est évident que les gens qui en chient un peu pour aller se déplacer, pour aller bosser, pour mettre de l'essence dans leur carriole, ils écoutent ça, bah c'est fini, quoi. C'est clair.
Oui, c'était lui qui avait dit, qui avait parlé de la France, de la clope et du diesel.
Ouais,
lors de la crise des jeunes. Non, mais
c'est l'écolo méprisant des classes populaires, c'est clair.
C'est clair. Complètement, qui considère que la culpabilité, elle repose sur une partie de la population qui ne fait pas l'effort de s'éduquer, de manger correctement ou de se déplacer en vélo.
Tout à fait.
Et ça, il faut jamais avoir connu, j'allais dire, la vie réelle.
La vie réelle.
Réelle, vraie, pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire, quoi. Que ça veut dire. Mais encore, tu vois, si on était sur des réflexions comme celle-là, qui peuvent être éventuellement en dernière instance, pourquoi pas ? Mais on a justement d'un côté un programme qui propose la cantine bio gratos pour les gosses. Et éventuellement sortir du nucléaire. Et on a des gens qui choisissent quand même dans un vote identitaire, parce que je suis communiste, parce que je ne suis pas justement le peuple et je ne suis pas un de ces prolétaires affreux en gilet jaune qui n'est pas capable de réfléchir, donc je vote vert, et qui décide d'abandonner réellement, concrètement, matériellement, la possibilité d'un changement politique et social pour la majorité de la population. Parce que, faut le dire, on n'est pas tous d'accord ici, et c'est tant mieux, c'est pas grave. Ce qui va se passer là pour les 5 prochaines années, quoi qu'il se passe, quel que soit le candidat qui va gagner, alors évidemment avec 50 nuances de Bourges, hein, ça c'est sûr, ça va être une boucherie. ça va être une boucherie.
Enfin, boucherie, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, hein, puisqu'on en parle, et c'est ça qui est important, on verra qui c'est qui sera élu, mais que ça soit l'un ou l'autre, il va y avoir des gens dans la rue. C'est ça qui m'intéresse. Ça. Alors après, est-ce que ça va se passer comme sous Macron, c'est-à-dire avec une répression terrible? On ne sait pas, puisque faut faire attention. Quand même, le bâton, tu le mets. Souvent, mais après, si tu en as trop de coups de bâton, ça peut faire une crise politique.
Tout à fait. Hein.
Alors avec la maire Le Pen, là c'est plus grave, puisque ce qui est en danger, c'est déjà les musulmans, c'est déjà tous les migrants, hein, tous les étrangers en France, tous ces gens-là. Alors moi, par rapport à ça, ça me révolte. Ça me révolte qu'on ne parle pas de tous ces Français qui vivent à l'étranger. On est capable de dire qu'il y a trop d'étrangers en France, mais on ne dit pas qu'il y a trop de Français à l'étranger. Et il y en a.
Un peu.
Il y en a beaucoup plus.
Ouais, il y en a beaucoup plus.
Il y en a beaucoup plus. Alors, ça serait bien, quand même, que si Le Pen gagne, que certains pays décident de renvoyer des Français qui vivent chez eux, quoi.
On échange.
J'y crois pas, hein, parce que c'est généralement les Français qui vivent à l'étranger, vivent bien, et en général, il y a des, ouais, voilà, c'est évident.
Bon, et effectivement, ouais, on en est arrivé à là, et en plus, il aura fallu même pas attendre une demi-heure pour sortir les grosses ficelles de l'appel au castor pour faire barrage et pour le Front républicain. Et ça, et alors, avec en plus petite, comment dire, cerise sur le gâteau pour certains, c'était non seulement faites barrage, parce que sinon ça marche pas, mais en plus envoyez-nous des sous, s'il vous plaît, parce qu'on est dans la merde. Alors franchement, le niveau est vraiment terrible. Alors bon, on va faire une première pause et puis ensuite on essaiera de voir comment on peut se sortir de toute cette merde, en espérant que potentiellement il va y avoir des luttes, et puis on essaiera aussi d'expliquer pourquoi ce système républicain de démocratie parlementaire tel qu'il est aujourd'hui est complètement moisi et complètement pourri de l'intérieur.
Nice et cousine. Il y a des fois que il y a des gens qui il y a des cas ou des événements dont on se souviendra toujours. De ses tout premiers jeux, de ses jours malheureux, de son premier tarpé, des copains de quartier et de son premier amour. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Je sens bien qu'il faudrait un peu plus se lâcher, un peu plus s'inventer, être plus motivé pour faire bouger son quartier. Il faut organiser une belle soirée, une belle tablée, une sono branchée, le ballet type commencer. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent tout à coup mieux dans sa vie? Est-ce le fruit du hasard ou est-ce un tour de magie? Un bon matin, tu te réveilles et tu te sens. Maïoni serait-ce le fait? Une fée qui serait venue dans la nuit? Si ouais, fils, se passe en bruit, ce serait glissé dans ton lit. Tu me rends à ton oreille son adorable gazouille. T'aurais fait voir mille merveilles, tout droit venu du paradis. Mais non, couillon, c'est le soleil qui te dit salut, c'est midi. On a toujours raison de savourer le bon et de laisser le mauvais au pébron. On a toujours le choix, mais entre quoi et quoi? Vas-y, boulegue, et l'avenir te le dira. Oui, à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Ici bas, on ne fait que passer, mais une trace, je crois qu'il faut laisser. C'est ça la classe, il ne faut pas l'oublier. Se surpasser, se dépasser, fait avancer. Ne pas se manquer d'un communiqué. Aimer rigoler, ne pas bloquer sur la monnaie. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi, je sens le doute s'installer. La jeunesse ne sait plus du tout à quel sens se vouer. Les élites occidentales sont complètement paumées. L'intégrisme se répand, le fascisme est à ses côtés. La guerre gagne du terrain et les civils viennent armés.
vrai char, je viens pas te casser les pieds, je viens juste te rappeler que le monde est tel qu'on le fait. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus.
Alors ouais, j'étais en train de regarder, mes notes effectivement par rapport à ce front républicain. Pour la troisième fois, on va tenter de nous refaire le coup.
La première fois, c'était 2002. C'était avec le père, Le Pen. Mmh. Ensuite, il y a eu les dernières, il y a 5 ans. Et puis là, c'est la troisième fois effectivement. Quoique, ça a perdu quand même de l'ampleur. Hein. Puis ensuite, tu regardes un peu ce qui se passe. Tu t'aperçois que c'est vraiment un système qui a bout de souffle. Qui a bout de souffle, puisque de toute façon, de plus en plus de gens qui votent Le Pen le revendiquent. C'est clair. Hein.
Il n'y a plus de vote caché
comme il y avait à une époque. Bah, voilà. Donc,
Il faut dire qu'on la présente comme quelqu'un qui aime les chats, hein, qui est gentille. Qui est trahie en plus, la pauvre.
Par son père.
Parce que c'est elle, puis par sa nièce. Puis par les gens qui étaient dans son entourage. C'est elle la victime, quelque part. Et alors, quand on s'attache et quand on regarde son discours, en dehors de ses prestations médiatiques mainstream, on voit que finalement, rien n'a changé. Je vous invite à regarder l'intervention qu'elle a faite à la FNSEA. Alors, son problème, c'est pas l'agriculture. Hein. Le problème, c'est que les fermes sont isolées et qu'il y a des mafias, souvent étrangères d'ailleurs, qui viennent voler le bétail.
Tout à fait. C'est incroyable, vraiment.
On a vraiment l'impression de vivre dans un Far West. Donc, sur les fondamentaux, en fait, il n'y a rien qu'à changer. Et puis, de toute façon, ça a été dit. Hein. On a des mesures aussi démagogiques qu'interdire le voile dans l'espace public. Bon courage. Voilà, pour quelqu'un qui voulait d'une France ou d'une société apaisée, voilà comment déclencher.
Elle va être apaisée, la société.
Tu m'étonnes, c'est clair. cette année, le Front Républicain, il a été assez rapide hein, à se mettre en branle, puisque à 20h03, c'était Anne Hidalgo. À 20h05, c'était Yannick Jadot. À 20h15, c'était Valérie Pécresse. Puis finalement, tout le monde y est passé. Hein. Alors, il y en a, c'est pas du tout un front républicain. C'est un bon front raciste, bien franchouillard. Hein. Chacun s'est trouvé un nouveau protecteur. Et alors, pourquoi ? Il faut le dire, parce que là, il y a un alignement des planètes, évidemment. Les partis qui, eux, font de la politique de manière professionnelle réfléchissent toujours à la possibilité de défendre leur existence. En tant que tel, alors c'est pas forcément une existence en termes d'idées, puisque on l'a vu là avec cette élection, les deux principaux partis qui structuraient la vie politique française depuis une quarantaine d'années ont été explosés, ont été siphonnés, avalés, aspirés, triangulés par la stratégie de Macron.
Je vais faire de l'humour, ça a quand même permis au PC de battre le PS.
Pour une fois, voilà, histoire historique. Voilà, tout à fait, c'est vrai. 1,76% pour un pays qui a un parti qui doit avoir à peu près une vingtaine de milliers d'élus à un échelon départemental et régional. Vous vous rendez compte de ce que ça peut signifier en termes de représentation des gens qui prennent des décisions tous les jours au quotidien, qui ont des impacts sur nos vies, à savoir combien on va payer pour les ordures, combien on va toucher en RSA. Ces gens-là représentent au niveau national 1,76%. Enfin, c'est renversant, quoi, quand on y réfléchit. Et donc, évidemment, là, on a un alignement des planètes, puisque si ils n'en ont rien à foutre de vos gueules, ils en ont quelque chose à faire des leurs. Et donc, évidemment, ils ont compris que face au Rassemblement national, le premier de la classe allait jouer l'unité nationale, et que là, il y avait des places à prendre, d'une part, et qu'il y avait les législatives, et qu'on allait pouvoir avoir d'éventuels accords d'appareil, à savoir soit on fait des coalitions et on fait un assemblage d'étiquettes qui font bien sur l'affiche, soit je ne mets pas de candidat, etc., etc.
Comme d'hab.
Comme d'hab. Là, il y a des sous, puisque, à la différence des présidentielles, quand vous faites des voix aux législatives, ça conditionne le financement public pour les 5 années à venir.
Oui, ça paye bien, ça paye bien.
Ça paye correctement.
Ça paye bien pour les partis. Pour les partis.
Et c'est là que c'est important, puisque là qu'on va trouver les sources de financement, alors peut-être pas complète, mais en tous les cas principale et majoritaire, puisque comme on est dans une démocratie, et ben la politique, elle est subventionnée par notre richesse à nous, hein, ceux qui travaillons et qui créons de la valeur pour alimenter le système. Alors là, tout le monde a bien appris son rôle, hein, et puis ça l'a fait correctement. Mais alors quand même, on a quand même quelque chose qui est l'ordre du tragipathétique, quoi. Comment ne pas voir que ces gens qui, à la limite, si vraiment, peut-être, dans leur humilité et dans leur honnêteté, ils veulent pas voir Le Pen au pouvoir, ben, y avait quelque chose de très simple, quoi. C'était se retirer 3 jours avant le premier tour et d'appeler à voter pour celui qui était le mieux placé, quoi.
Tu penses bien que c'était pas possible. Hein, même si Mélenchon a réussi à siphonner quand même pas mal de voix, puisque ça a permis d'avoir 22%. Mais ces gens-là, de toute façon, alors, ce qui est étonnant, c'est quand même des gens qui sont étonnés que Roussel ait dit que si jamais il y avait quelqu'un qui pouvait aller au deuxième tour de gauche, il sortirait. Bon, et qu'il l'a pas fait. Bah, Dupont, tu m'étonnes, hein. Lui, il croyait, lui, hein, à ses 4%. Il y croyait. Un PC à 4% en France, ça, quand même, ça avait un peu plus de gueule que ce qui se passait depuis 20 ans, 30 ans. Donc, voilà. Bon, ben, je crois que c'est la politicalité. Je crois qu'aussi, il faut pas non plus, les gens qui ne votent pas, ou les gens qui votent sans se faire d'illusions, il y en a beaucoup, et ils ont bien raison, je suis bien d'accord avec eux, ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs, même si effectivement, ça va conditionner beaucoup de choses au niveau des mobilisations, au niveau des trucs. Mais bon, on n'en est plus à une période où, finalement, et rappelez-vous, pour certains qui écoutent, ne se rappellent pas, mais moi je m'en rappelle bien, la première élection présidentielle qui a valu le coup de vivre, c'était celle de 81. Celle de 81 avec Mitterrand qui gagne contre Giscard. Et là, il y a eu des tas de gens dans la rue qui faisaient la fête. Des millions de gens en France qui faisaient la fête.
C'est compréhensible.
Mais c'est compréhensible. Sauf que ça a eu des conséquences terribles au niveau des mouvements sociaux. Il y a eu à cette époque-là, c'était plus possible, dans la plupart du temps, de faire grève. Puisque de toute façon, la gauche était au pouvoir. Donc, c'était quasiment impossible de faire grève, sauf si, et heureusement qu'ils étaient là, il y avait des immigrés qui bossaient dans l'industrie automobile qui, eux, ont foutu le pair en 82 et 83. Et d'ailleurs, ils se sont fait massacrer par un certain Pierre Mauroy qui avait vu des gens qui étaient des intégristes déjà, hein, puisqu'ils faisaient... Hein, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est quand même une période terrible, cette histoire de 81, avec l'espoir. Moi, j'ai connu l'espoir au niveau de la lutte antinucléaire. Nous, on était branchés à fond dans la lutte de Chaux, mais aussi dans d'autres luttes antinucléaires en France. Et il y avait eu des promesses de la part du candidat Mitterrand, comme quoi, s'il y avait une mobilisation des gens contre cette centrale, elle se ferait pas. En fait, elles se sont toutes faites, sauf une. Plug-off. C'est quand même un truc, ça a été une déception terrible. Des tas de gens sont, d'ailleurs, il y a des tas de gens dans les Ardennes qui sont passés au Front National à cause de ça. Hein. C'est des conséquences terribles d'être trahis par des gens, parce que les élections sont terribles à ce niveau-là. C'est-à-dire que ceux qui sont élus font ce qu'ils veulent après. Hein? Donc ils peuvent trahir, pas de problème, de toute façon on verra ça dans 5 ans, puis dans 5 ans de toute façon les gens ont oublié, hein? Bon, et ça se passe très bien. Donc, et puis là il y a eu aussi une baisse terrible des luttes sociales à cause de cette élection de Mitterrand qui a cassé beaucoup de choses.
Alors effectivement, est-ce que on va avoir une réaction d'orgueil et une sorte de quitte ou double? Bon, alors là, franchement, on est en face de quelque chose, tu l'as dit, qui est à bout de souffle, qui n'arrive pas à finir de crever. Et pour pouvoir inverser la tendance, il va falloir être sacrément fort dans la rue et avoir la possibilité de comment dire, peser et de s'organiser comme on ne l'a pas fait depuis très longtemps.
Très longtemps.
Alors, il y a quand même des choses qui sont, on va dire, à noter pour positiver, c'est-à-dire pas faire l'optimisme béat, mais en tous les cas, regarder ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une année, au cours de ces quatre dernières années, sans lutte. C'est-à-dire qu'après la sidération et l'attraction Macron, on a tous vu le petit chiot qui est arrivé, on l'a vu, on était curieux de voir comment ça allait se passer. Bon, assez rapidement, ça a été très vite, hein, première décision, baisse de l'ISF, abolition de l'ISF, hein, ça a été extrêmement rapide à dévoiler.
Il s'attaque aux retraites. C'est ça. Au travail, au début.
Avec les ordonnances, puis la super loi travail qui a amplifié
Et c'était la suite de quelqu'un de gauche.
C'est ça.
C'était la suite de
Hollande et de
Hollande. Ouais. Ouais,
c'est ça, une espèce de mise en application directe de cette fameuse commission Attali, dans lequel il y a eu beaucoup de liens qui se sont faits au niveau, alors là pour le coup, de la bourgeoisie au sens où tu pouvais la décrire en début d'émission, puisque si vous voulez des exemples réels et concrets de ce que sont les bourgeois, bon ben vous les avez là dans cette commission. Et puis ben donc il y a eu toutes ces luttes, hein, les gilets jaunes. La réforme des retraites, les soignants également, l'hôpital qui s'est organisé en coordination, qui a essayé de se battre, etc. etc. Est-ce que les travailleurs vont pouvoir capitaliser là-dessus pour pouvoir se défendre et prendre conscience que c'est vraiment eux qui ont la possibilité et que le destin, leur destin est entre leurs mains? On ne sait pas, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que il y a une vraie envie d'en découdre et que pour le coup, là, l'ennemi social, il est identifié et que on a pu ce travail à faire auparavant et que il restera forcément des choses de ces luttes-là, quoi. Et que en plus, comme l'ensemble des acteurs de la société capitaliste se sont discrédités, que ce soit la gauche ou les syndicats, on sait très bien qu'il faut qu'on ne compte que sur nous-mêmes. Donc bon, il y a déjà eu quelques petites réactions, hein, puisque hier soir, il y a eu des manifestations à Lyon et à Rennes,
ouais,
qui ont donné lieu à quelques affrontements. Il est fort à parier que d'ici le 15 avril, il y a aussi des manifestations et que le 15, il y aura des manifestations. Ça, c'est à peu près sûr. Comment est-ce qu'elles vont être traitées par la police, par le pouvoir, faudra faire attention. Et puis, ben, on sait que en général, juste après les élections présidentielles, c'est ça qui est bien, il y a le mois de mai où il y a le 1er mai, qui est censé normalement être notre jour à nous. Bon, faut pas non plus triper comme des fous là-dessus, hein, mais qui peut-être, pourquoi pas, donnera lieu à des échanges au moins déjà dans la rue et peut-être après, quoi.
J'ai une question à te poser, parce que j'ai pas tout suivi. Est-ce qu'il y a eu une étude qui a été faite sur le vote des Gilets jaunes?
Non. Pas exactement, puisque tu sais que les Gilets jaunes, c'est une figure qui est difficile à saisir socialement. Il y a deux groupes qui se sont orientés sur qui se sont revendiqués comme étant Gilets jaunes. D'une part, il y a eu la majorité d'entre eux qui s'est projetée sur Mélenchon. Alors, d'abord parce qu'il y avait des revendications au niveau du pouvoir d'achat, parce qu'ensuite, il y a eu un discours, au moins, on va dire, d'empathie, notamment vis-à-vis de la répression policière.
Oui.
Puisque faut quand même le signaler, c'est assez rare. C'est le seul, qui est pas allé à la manifestation de flics. Et puis en dernière partie de campagne, il y a eu cette proposition d'amnistie des Gilets jaunes, qui devait être aussi un truc électoraliste. Hein, faut pas non plus être débile.
Pas, pas débile.
Mais bon, qui fait quand même plaisir à entendre, quoi. Donc la majorité des Gilets jaunes se sont projetés sur Mélenchon et Union Populaire. Un tiers sur Le Pen.
Oui.
Dans un vote assez étrange de à la fois de protestation et en même temps de rejet, avec un peu de racisme, mais pas que. Il y en a qui sont incurables, hein, faut les piquer, hein, parce que tu veux, c'est pas grave. Et puis un dernier tiers, un dernier quart plutôt, on va dire, dans une abstention réelle, plutôt désabusée. Il faut jamais oublier à quel point la répression, qu'elle soit physique, qu'elle soit policière, qu'elle soit judiciaire, a vraiment brisé des gens qui pensaient être dans leur légitimité et qui ont découvert la dureté de ce que pouvait être le capitalisme, à la fois dans sa dimension d'exploitation, mais aussi dans la dimension répressive. Je te rappelle qu'il y a un livre qui a été écrit sur un gilet jaune qui s'est suicidé après avoir été condamné à une peine de prison. Ça s'appelle La Fièvre, voilà, c'est ça, qui est un très bel ouvrage qui raconte l'histoire de quelqu'un qui avait participé à l'animation d'un repoint, qui avait beaucoup mis dans cette cause et qui a été retrouvé pendu. Alors ça, c'est un cas qui a été médiatisé, mais évidemment, il y a dû en avoir plein d'autres. Quand tu dois revenir à la normale après avoir vécu une vie aussi riche que peut-être celle de la lutte, bah forcément, ça calme. Alors, des luttes, il va y en avoir, ça, on le sait, dans les Outre-mer, puisque la situation a été que mis entre parenthèses pendant ces derniers jours, mais la situation, elle est vraiment terrible, que ça soit au niveau du coût de la vie, mais aussi au niveau de la flotte, hein, il y a vraiment des gros problèmes d'eau, au niveau du scandale sanitaire du chlordécone, des 15 000 soignants qui ont toujours pas été réintégrés, je crois qu'on parle de 1700 pompiers qui sont pas réintégrés dans les dom-toms et qui donc vont peser très très fort sur le système de soins. Rappelons ici qu'on est en métropole à peu près environ 120 à 140 000 soignants qui auraient été exclus de l'hôpital pour refus de vaccination. Donc ça va aussi peser très très fort sur l'hôpital. Pour ceux qui ont l'occasion d'avoir fréquenté l'hôpital public ces derniers mois, c'est vraiment catastrophe, quoi. Et puis, cette espèce de premier round qui risque d'être la proposition de réforme des retraites. En tous les cas, on va pas l'appeler réforme de retraite, d'allongement du travail, voilà. On va le parler comme ça, puisque sinon après on va tomber dans un vocabulaire. Et là, ça risque d'être un peu peut-être ce qui va décider de l'ambiance générale. Alors, c'est sûr que c'est pas sur les syndicats qu'on va compter, hein. Mais on verra bien. Hein. Tout reste à construire. De toute façon, si on ne tente rien, on n'aura rien. Et c'est le pire, quoi. C'est le pire. Enfin. Bon, on va se refaire un petit coup de musique et puis on va essayer de conclure. We'll be right back.
C'est terrible cette musique. C'est dans l'air du temps, dans l'air de ce,
ah, c'est,
ce qu'on a vécu.
Ouais, c'est pas, ça date pas d'hier, mais bon, quand même. Bon, alors il nous reste à peine 4 minutes pour pouvoir essayer de conclure et de tracer des perspectives.
Bon, c'est évident que ce qui est important, je pense, pour tous ceux qui veulent autre chose que ce qu'on nous propose, c'est de s'abstenir en masse dans 15 jours. Hein, c'est évident qu'on n'a pas à choisir entre l'héritière du fascisme et l'une des héritières du fascisme, ainsi que le bourgeois, la bourgeoisie, qui, j'ai lu un truc, c'est le poulain du capitalisme mondialisé.
Le fondé de pouvoir.
Voilà. Alors bon, je crois qu'il va falloir travailler à autre chose pour qu'on puisse revivre, c'est-à-dire vivre des choses chouettes, des mouvements de lutte, des trucs, des gens dans la rue, mais pas seulement, des tas de trucs qui peuvent se passer encore dans la société et qu'on va pas subir des larmes et du sang, quoi.
Et si justement il pouvait y avoir des débats par rapport au choix que les gens pouvaient faire sur le premier tour, parce qu'il n'est pas question de juger qui que ce soit, mais là sur le second tour, il est évident qu'une abstention massive ne signifie pas la même chose. Elle signifie pas forcément un désintérêt, mais elle renvoie justement tous ces politiciens qui, après nous avoir abreuvés, on l'a dit, de leçons de morale en disant faut faire ci, faut pas faire ça, et qui à la fin nous renvoie à la même chose qu'il y a 5 ans et à la même chose qu'il y a 15 ans, rendez-vous compte quand même. Là, cette abstention, elle leur signifie quand même un gros bras d'honneur. Et on peut rêver et espérer qu'elle soit tellement massive que le discrédit soit jeté sur ce petit théâtre-là démocratique, quoi. Alors, une des seules réjouissances qu'on a, c'est évidemment de voir ces politiciens et ces politiciennes, pour le coup, puisque ce sont deux femmes, vive l'égalité, qui regardent leurs chaussures et qui font des appels au fric. C'est quand même un truc de fou, quoi. Vous avez la candidate qui a le plus gros patrimoine, en l'occurrence Valérie Pécresse,
ouais, je pense que c'est...
avec des lithographies chez elle et des milliers d'actions de General Electric qui vient chouiner en disant qu'elle est endettée personnellement, la pauvre.
5 millions d'euros, voilà. Alors qu'elle a un patrimoine d'au moins 7 millions. Non,
ouais, c'est ça. Bon. Bah, allez, bah, tu vas... Moi, nous, on est contre l'assistanat, nous aussi, donc tu vas travailler.
Tu vas travailler.
Et puis on va te faire un plan d'apurement assez juste comme nous quand on a des dettes de loyer. Voilà. Donc c'est peut-être quelque part le seul truc d'un peu réjouissant. Mais c'est sûr que les rendez-vous dans la rue, dans les boîtes et dans la lutte, ils vont être très très importants. Il va falloir très très rapidement relever la tête et vraiment... montrer de quel bois on se chauffe.
Voilà. Bon, allez, on se quitte.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.